bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, il continue à questionner le sens de la vie, celui du bonheur ou encore la place de Dieu dans nos sociétés. Une philosophie consolatoire, celle du philosophe André Comte-Sponville, notre invité après le journal de Camille Magnard. Il publie 20 ans après une première série, une nouvelle salve d'impromptu, L'Inconsolable et autres impromptus paraît aux éditions du PUF. Mais d'abord, redécouvrir Delacroix en 180 œuvres au Louvre jusqu'au 23 juillet à travers ses peintures de la chapelle des Saints-Anges à l'église Saint-Sulpice. Une lutte moderne, c'est au musée Delacroix et dans la vaste monographie que lui consacre notre invité chez Gallimard, Delacroix par Barthélémy Jobert, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Historien de l'art spécialisé dans le 19e européen, ancien président de la Sorbonne, il préside aujourd'hui sa fondation. Maître du 19e, Eugène Delacroix fait partie des rares peintres comme Pablo Picasso qui a son musée national ici à Paris et une reconnaissance solide et des toiles inscrites dans la mémoire collective comme la liberté guidant le peuple avec ou sans l'aide de Facebook d'ailleurs qui après l'avoir censuré pour nudité vient de reconnaître sa bêtise. Bonjour à vous Barthélémy Jobert.
Bonjour.
Pourquoi revenir aujourd'hui sur Delacroix? En 1997, vous écriviez dans cette monographie que vous lui avez consacrée et qui est rééditée aujourd'hui chez Gallimard à l'occasion de la grande exposition que le Louvre consacre aux peintres. Vous écriviez que Delacroix, malgré les apparences, est encore au purgatoire et reste un artiste neuf à découvrir. En quoi ?
Alors, c'était vrai en 1997, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup réécrit dans la monographie que Gallimard m'a demandé de rééditer et de reprendre. C'est qu'en 20 ans, Delacroix est peut-être devenu un peintre beaucoup plus populaire qu'il ne l'était auparavant. C'est un peintre qui a toujours été énormément apprécié par des critiques, à commencer par Baudelaire de son vivant, par un monde d'amateurs qui s'est disputé ses dessins, ses toiles, également ses estampes. Mais le grand public, si je puis dire, en dehors de quelques tableaux emblématiques, et vous avez cité la Liberté, c'est le plus connu, qui a même dépassé d'une certaine manière l'ambition que Delacroix y avait mise pour devenir universel. En dehors de quelques peintures, le grand public, finalement, connaissait relativement peu Delacroix. Depuis 20 ans, d'abord les historiens de l'art, les spécialistes, ont beaucoup, sinon renouvelé, du moins approfondi, la vision que nous pouvions avoir de l'artiste. Et puis, certaines œuvres ont été véritablement ressuscitées. Vous avez cité l'exposition du Louvre, mais aussi celle du Musée national Eugène Delacroix, dans l'atelier de l'artiste, qui est consacrée à la restauration des peintures murales de Saint-Sulpice. Mais il faut peut-être encore plus, après avoir vu l'exposition du Musée Delacroix, aller à Saint-Sulpice même, où ces œuvres ont eu une restauration absolument exemplaire et extraordinaire qui les a véritablement révélés par un simple décrassage et un désenfumage complet. Moi-même, je ne peux pas complètement dire aujourd'hui ce que je pouvais dire de cette œuvre il y a 20 ans et encore plus, j'invite tous ceux qui nous écoutent à se rendre à Saint-Denis du Saint-Sacrement qui est une église à côté de la place des Vosges dans le Marais où Delacroix a peint là encore une peinture murale tout à fait exceptionnelle, qui est une Pietà, qui vient d'être, pardonnez-moi, c'est un jeu de mots un peu facile, ressuscité par une restauration qui a suivi la première et qui nous montre une œuvre que plus personne ne voyait et ne voyait comme elle est. Et puis, on voit à l'exposition le Christ au Jardin des Oliviers, la grande peinture, cette fois-ci un tableau religieux de Saint-Paul-Saint-Louis, qui est exposé à côté du Sardanapale et qui, elle aussi, a eu une restauration tout à fait exceptionnel, exemplaire. Donc on a retrouvé un certain Delacroix. Bon, et ça, c'est uniquement la matérialité des œuvres, mais une recherche extrêmement approfondie a été faite sur les textes écrits par Delacroix, car Delacroix est un des plus grands écrivains, pour moi le plus grand écrivain peintre. Ces 20 dernières années, il y a eu une nouvelle édition du journal qui a été faite par une universitaire américaine, Michèle Hanouch, qui a fait un travail remarquable, exceptionnel. On a redécouvert des manuscrits, moi-même j'en ai réédité un avec une ancienne conservatrice malheureusement aujourd'hui disparu de la Bibliothèque nationale, Laure Beaumont-Maillet. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et qui expliquent que aujourd'hui Delacroix est plus connu, je dirais plus populaire, et le succès de l'exposition d'ailleurs qui a commencé il y a quelques semaines le prouve, et je dirais est plus rentré dans notre mémoire collective. Après, est-ce que tous les spectateurs comprennent véritablement ce que Delacroix a voulu faire, ça c'est une autre affaire.
Alors de la restauration que vous avez beaucoup évoquée déjà, Barthélemy Jobert, il avait une piètre idée de Delacroix. Dans la perspective de cette rétrospective, des œuvres ont aussi été restaurées, comme le Christ au Jardin des Oliviers au Louvre et l'acte de restauration. Delacroix disait qu'il était un outrage mille fois plus regrettable que celui du temps, que l'auteur du tableau véritable disparaissait sous les retouches. C'était dans son journal et vous le citez dans votre monographie, Barthélemy Jobert. Delacroix, l'amour, la mort, la guerre, la révolution, c'est vraiment une œuvre qui touche à l'universel. Et sous la plume de Théophile Gautier, on peut résumer ainsi, en quelques mots, cet élan qui poussait le peintre vers sa toile. L'amour, la terreur, la folie, le désespoir, la rage, l'exaltation, la satiété, le rêve et l'action, la pensée et la mélancolie ont été exprimés tour à tour avec la même supériorité par ce génie shakespearien, impartial et passionné, à la fois comme le poète anglais, c'est là un artiste dans la force du mot. J'aimerais bien que vous nous choisissiez pour entrer un peu dans sa peinture, une toile qui nous parlerait de lui, de la manière dont vous le voyez, Barthélemy Jobert.
Ça n'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'ai mon Delacroix personnel.
Oui, mais c'est celui qu'on aimerait bien connaître.
Si vous me demandez quelle est la toile qui m'émeut le plus dans l'exposition, c'est une toile que j'ai beaucoup regardée quand j'étais aux États-Unis. J'ai vécu un an à Boston, et au Musée des Beaux-Arts de Boston, il y a une œuvre que je trouve exceptionnel, qui est une Pietà, que Delacroix a peinte à la fin de sa vie, juste avant l'exposition universelle de 1855, qui a été achetée avant même l'exposition par un aristocrate, le comte de Gélois, et qui est parti très vite aux États-Unis, donc on n'a pas à la regretter. C'est une œuvre admirable, hein, parce que d'abord elle est d'une modernité de touche, la tête du Christ est exceptionnelle, une modernité de touche qui nous frappe aujourd'hui. On pense à Delacroix pas comme un peintre pompier, mais un peintre finalement très classique, très traditionnel. Là, on voit qu'il était d'une audace extraordinaire. Et puis, il y a une... C'est un peu ce que dit Gautier dans le texte que vous avez cité, ou ce qu'exprime Baudelaire ailleurs. Il y a, dans la manière que Delacroix a d'utiliser la couleur, un passage de l'émotion que cette toile me fait presque pleurer. Le Saint-Jean au premier plan qui médite sur la couronne d'épines est habillé d'une couleur rouge, rouge-orangé, qui fait passer par la couleur le sentiment que Saint-Jean a. Voilà pour moi, si vous voulez, une œuvre que tout le monde peut d'ailleurs comprendre, parce que, au contraire de beaucoup d'autres œuvres de Delacroix, elle a certes le texte de l'Évangile comme substrat, comme support, mais elle est beaucoup moins littéraire que d'autres œuvres pour lesquelles il faut avoir une sacrée connaissance de la littérature pour comprendre exactement ce que Delacroix a voulu faire.
Une date de naissance artistique qui revient souvent autour d'Eugène Delacroix, c'est 1822, date de sa première participation au Salon, avec sa barque de Dante. Va alors s'ouvrir pour lui une période très fructueuse, mais aussi une période de reconnaissance et de succès. « La gloire n'est pas un vain mot pour moi », écrit-il à un ami un jour, extrait de son journal, lu par Jean Taupard.
Ce qui fait les hommes de génie, ou plutôt ce qu'ils font, ce ne sont point les idées neuves, c'est cette idée qui les possède, que ce qui a été dit ne l'a pas encore été assez. Mon tableau acquiert une torsion, un mouvement énergique qu'il faut absolument compléter. Il y faut ce bon noir, cette heureuse saleté, et de ses membres, comme je sais, et comme peu les cherchent. Le mulâtre fera bien. Il faut remplir. Si c'est moins naturel, ce sera plus fécond et plus beau. Que tout ça se tienne. Oh, sourire d'un mourant, coup d'œil maternel, étreinte du désespoir, domaine précieux de la peinture. Silencieuse puissance qui ne parle d'abord qu'aux yeux et qui gagne et s'empare de toutes les facultés de l'âme. Voilà l'esprit. Voilà la vraie beauté qui te convient, belle peinture, si insultée, si méconnue. Livré aux bêtes qui t'exploitent. mais il est des cœurs qui t'accueilleront encore religieusement. De ces âmes que les phrases ne satisfont point, pas plus que les inventions et les idées ingénieuses. Tu n'as qu'à paraître avec ta mâle et simple rudesse. Tu plairas d'un plaisir pur et absolu.
Eugène Delacroix dans le texte, puisque c'est un extrait de son journal que vous venez d'entendre, lu par le comédien Topard. Barthélémy Jobert, l'exposition présente vraiment l'artiste comme un peintre en tension partagée entre désir d'originalité et envie de s'inscrire aussi dans la plus grande tradition des courants qui l'ont précédé. À la recherche de quoi était-il pour vous, Eugène Delacroix, profondément? Quelle quête l'a animé toute sa vie qui permette peut-être de faire lien, une continuité dans son œuvre, quelle idée l'a possédée?
C'est une question extrêmement difficile parce que quand on lit le journal, on voit, comme ça vient d'être fait, on voit que aussi bien dans la jeunesse, c'est un extrait du journal de jeunesse qu'on a entendu ici, donc de 1824, que dans les années de la maturité où Delacroix écrit de manière beaucoup plus réfléchie, l'inscription qu'il a voulu avoir dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture, est finalement ce qu'il a recherché. Et de ce point de vue-là, comme il avait une culture extraordinairement développée, il se situait tout aussi bien par rapport aux artistes antiques, aux artistes de l'Antiquité qu'aux artistes de la Renaissance. Alors, pour simplifier, je dirais, mais c'est une caricature, faire aussi bien que Rubens. Parce que Rubens était vraiment son dieu. Et on sait que quand Manet a été lui demandé l'autorisation de copier la barque de Dante, ça se faisait à ce moment-là. La barque de Dante était au musée du Luxembourg et Manet a demandé audience à Delacroix dans son atelier pour pouvoir copier la barque de Dante. Et il a raconté ça plus tard. Delacroix lui aurait dit, bon, c'est très bien de me copier, mais ce qu'il faut copier, c'est Rubens, toujours Rubens. Voyez Rubens, copiez Rubens, regardez Rubens. Et je crois que c'est par rapport à celui qu'il appelait l'Homère de la peinture, ce qui est une très belle expression pour définir Rubens, je crois que Delacroix a voulu faire aussi bien. Pas la même chose, parce qu'il n'a jamais, il a beaucoup copié, évidemment, pour se former, mais il voulait être original.
C'est un homme de combat à travers sa peinture. Les horizons n'ont pas besoin d'être grands pour que les batailles soient importantes. Les révolutions et les événements les plus curieux se passent sous le ciel du crâne, dans le laboratoire étroit et mystérieux du cerveau, écrivait à son sujet son ami Charles Baudelaire. Et il a aussi un tempérament de fauve, comme a dit de lui Paul Gauguin, c'est pourquoi il les a si bien peints. Enfin, c'est aussi un homme qui se présente ou qui semble être tout entier habité par son art, dont il écrira qu'il le harcèle, cet art, cette peinture. Et le tourmente de mille manières comme la maîtresse la plus exigeante. Il est aussi orgueilleux et exigeant, Eugène Delacroix. Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil, écrira-t-il. Tous les yeux ne sont pas propres à goûter les délicatesses de la peinture. Beaucoup ont l'œil faux ou inerte. Ils voient littéralement les objets, mais l'exquis, non. Ça, c'est les dernières lignes de son journal, écrites en 1863, année de sa mort. C'est aussi un peintre à la grande agilité, Barthélémy Jobert. Delacroix, c'était d'abord une main pour vous?
C'est un œil. C'est un œil allié à une main, ou une main alliée à un œil. Mais ce sont les deux à la fois. C'est un coloriste, c'est ce que tout le monde a vu de son vivant, mais c'est également un très très grand dessinateur. Et je crois qu'il faut rentrer dans Delacroix, peut-être plus dans un premier temps par le dessin, parce que c'est ce qui nous est immédiatement accessible aujourd'hui à notre sensibilité contemporaine, et après rentrer dans une peinture qui est une peinture très intellectuelle. Parce que pour Delacroix, et ça c'est ce qui le sépare, si je puis dire, de nous aujourd'hui, en tout cas du grand public, Delacroix c'est un sujet. C'est-à-dire que quand il peint un sujet. Et d'ailleurs, dans le texte du journal qu'a lu Jean Topard tout à l'heure, il y a un mot sur la nature où il dit « s'il y a moins de nature, c'est encore mieux ». C'est-à-dire que ça n'est pas définitivement un réaliste. Et donc, le dessin est probablement le médium où s'exprime le mieux pour nous aujourd'hui, je ne pense pas que c'était le cas de son temps, la personnalité artistique de Delacroix. Or, il faut savoir que ses dessins, il les faisait souvent de mémoire. Il y a des dessins d'études très nombreux qui sont faits sur le motif, dans la nature d'ailleurs. Il allait se promener dans sa maison de campagne, dans la forêt de Sénart, il peignait des arbres, et il dessinait des arbres, et c'est comme ça que on a pu identifier identifier le chêne de la lutte de Jacob avec l'ange à Saint-Sulpice, avec un chêne particulier de la forêt de Sénart, qui est un chêne assez connu. Mais le plus souvent, enfin très souvent, Delacroix dessinait de mémoire. Par exemple, lors de son voyage au Maroc, il regardait dans la journée, il prenait des croquis, mais le soir, il reprenait le tout, aussi bien pour la couleur que pour certaines scènes qu'il dessinait après coup. Donc, l'œil compte évidemment beaucoup pour lui, la main également. Et là, quand on parle de dessin, et qu'on compare les dessins de jeunesse aux dessins de la maturité ou de la vieillesse, on sent que, exactement comme Turner d'ailleurs, il a acquis une technique qui lui permet de faire tout ce qu'il veut, avec une liberté exceptionnelle qui nous remplit d'admiration aujourd'hui, puisque en trois coups de plume, il arrive à créer une scène, un volume, faire une expression, et très souvent, et ça c'est à mon sens là le cœur de la réflexion sur Delacroix artiste, il reprend dans le même dessin le même sujet, mais de manière un tout petit peu différente, comme une variation.
Il a eu cette phrase de mémoire, un peu approximativement, disant qu'un bon peintre ou un bon dessinateur doit pouvoir saisir dans son croquis la chute d'un homme du quatrième étage, mais pendant le temps de la chute.
Pendant le temps de la chute. Et c'est probablement ce qu'il arrivait à faire. Je dis pas qu'il y a, bon, certains dessins de Delacroix sont plus extraordinaires que d'autres. Je dirais que ceux qui nous fascinent aujourd'hui sont souvent les plus aboutis, qui lui ont demandé des heures, voire des jours de travail, comme par exemple le bouquet de fleurs qu'a possédé Cézanne et qui est aujourd'hui au musée du Louvre, au musée de la Croix. Mais les dessins qui, moi, me plaisent beaucoup sont ceux qu'il faisait à la fin de sa vie, après le dîner, le soir, qui étaient donc des dessins de mémoire et qu'il faisait à la plume. Ce sont des petits croquis où tout est exprimé avec rien. On comprend en effet cette phrase célèbre de l'homme du quatrième étage qu'il faut savoir dessiner pendant le moment de sa chute, donc dans un temps très bref.
Voilà, ou celle de son biographe Théophile Sylvestre à l'époque, qui disait qu'il avait une main condamnée à une escrime perpétuelle. Au Louvre, on peut voir la mort de Sardanapale ou encore la prise de Constantinople par les croisés, mais ces deux grandes œuvres n'ont pas rejoint le hall Napoléon, trop grandes pour être déplacées. Beaucoup de tableaux monumentaux y sont néanmoins présentés, et des peintures, toutes ces peintures murales qu'on doit mettre à son crédit, qui ne sont pas forcément déplaçables, mais sur lesquels il a adoré travailler, avec ce premier chantier qui lui avait été confié en 1833 au Palais Bourbon. Pourquoi Delacroix est un peintre grand format comme ça, Barthélemy Joubert? Quelle expérience visuelle du détail ou des dimensions lui offre ces grandes perspectives?
Alors, c'est d'abord ce qu'on a appelé depuis un historien de l'art allemand qui a mis en place cette terminologie, un artiste d'exposition. Vous avez parlé de la barque de Dante en 1822. C'est le début de l'exposition. On voit les cinq grands formats, disons que de la, enfin cinq des grands formats que Delacroix a peint pour le salon entre 1822 et 1831. Ces grands formats, ils étaient, si je puis dire, attendus par le public, parce que c'était une manière pour le peintre à la fois de s'individualiser dans une exposition où il y avait plusieurs centaines de tableaux, donc plus on faisait grand, plus on était vu, ça commence comme ça. Mais également, pour les critiques comme pour le grand public, un artiste qui maîtrise le grand format est un meilleur artiste que celui qui peint en petit. Et d'ailleurs, Delacroix avait des difficultés. Pour le Sardanapale, il a été obligé de se faire aider par un de ses amis qui était décorateur de théâtre, parce qu'il n'arrivait pas très très bien à caler la perspective. Il y a donc des difficultés du grand format qu'il a maîtrisées au fur et à mesure. Bon, ça c'est sa, si je puis dire, sa première ligne directrice. Il a fait après, pour chaque salon, ou pratiquement chaque salon, jusqu'au salon de 1859, un moyen ou un grand format par salon, pour en quelque sorte dialoguer avec le public par ce biais du grand format. Après, il a eu cette chance que Thiers, qui était le premier ministre de Louis-Philippe, lui a commandé, parce qu'il appréciait Delacroix, lui a commandé un décor pour la Chambre des députés, l'actuelle Assemblée nationale, que l'on était on en avait complètement refaite et redécorée à l'occasion du début du règne de Louis-Philippe. Et c'est là le début de son aventure comme peintre décorateur, qui est une partie de son œuvre essentielle, qu'il est évidemment extrêmement compliqué de montrer dans une exposition parce que les peintures ne se déplacent pas, qui a structuré véritablement sa carrière dans la deuxième partie de celle-ci, c'est-à-dire entre 1832 et sa mort en 1863. Ces grands décors, le public peut les voir lorsqu'ils sont dans les églises, et ceux auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Il est beaucoup plus compliqué de voir ceux qui sont, à mon avis, aussi beaux, voire plus beaux, qui sont ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat, que nos représentants voient et ont le loisir de goûter, mais que leurs électeurs ont beaucoup plus de difficultés à approcher, malheureusement.
Peut-être juste le jour des Journées du patrimoine.
Voilà.
Hein, reste à savoir. Invité de cette première partie de la Grande Table du vendredi, l'historien d'art Barthélemy Jaubert, à l'occasion de l'exposition que le Louvre consacre au peintre Eugène Delacroix. Vous avez publié une vaste monographie consacrée à Eugène Delacroix en 97, qui est rééditée aujourd'hui, réactualisée. Vous l'avez évoqué, les recherches et les découvertes se sont amplifiées dans ces 20 dernières années. On peut donc la trouver aux éditions Gallimard. France Culture, il est midi 23.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Delacroix, un peintre littéraire pour qui la peinture est d'abord une narration qui rivalise avec l'écrit, écrivez-vous, Barthélemy Jaubert. Son journal est par ailleurs une œuvre littéraire à part entière. Vous l'avez évoqué, il l'a débuté jeune, en 1822, pendant 2 ans, puis il l'a délaissé pendant presque 20 ans. C'est une conversation avec lui-même qui lui permet d'approfondir sa réflexion sur la vie, sur la peinture. Et il doutait un peu quand même aussi de ses talents d'écrivain, Delacroix, comme le rapportera son ami Baudelaire en 1863. Qui dit de lui, autant il était sûr d'écrire ce qu'il pensait sur une toile, autant il était préoccupé de ne pouvoir peindre sa pensée sur le papier. Alors on sait que Delacroix va s'inspirer de Montaigne, qu'il va être comparé à Edgar Poe, qu'il va de son côté dévorer Dante, Goethe ou encore Shakespeare. C'est un homme de lettres pour vous aussi, Eugène Delacroix.
De toute évidence, c'est un très très grand écrivain. Alors il n'avait pas la plume facile. C'est-à-dire que dès qu'il s'est agi pour lui de publier quelque chose, il raturait, il reprenait et quelquefois il a abandonné. Je parlais de cette édition que j'avais faite avec Laure Beaumont-Maillet, du texte qui lui avait été demandé par un éditeur de journal, où on lui avait demandé de raconter ses souvenirs du voyage qu'il avait fait dans le Maroc. Il n'est pas arrivé au bout. Et je peux vous dire que pour avoir travaillé sur le manuscrit, c'est quelquefois incompréhensible tellement il y a de ratures, de reprises, parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'expression qui pour lui correspondait à ce qu'il voulait dire.
Ce qu'il arrivait à faire en peinture, parce qu'il a toujours aussi considéré que la peinture était quand même un peu supérieure à la littérature.
Bien sûr, alors pour lui, il faut pas oublier la musique. Pour lui, la peinture est l'art suprême parce que le peintre exprime en un seul moment quelque chose qui après peut être détaillé. Alors qu'en littérature ou en musique, on a besoin d'écouter tout le morceau ou de lire tout le texte pour après se faire une idée de ce que l'artiste a voulu exprimer.
Voilà, je le cite juste dans son journal à ce sujet. Les livres sont des portions de tableaux en mouvement dont l'un succède à l'autre sans qu'il soit possible de les embrasser à la fois. Il a dit aussi, si Shakespeare est le plus grand, c'est qu'il est peintre.
Oui. Et il pourrait dire aussi, si Rubens est le plus grand, c'est qu'il est écrivain.
On va quand même parler un petit peu du Delacroix oriental, parce que c'est une part importante aussi de son parcours et de sa peinture. En 1831-32, il fait la rencontre du comte de Mornay, qui va l'embarquer dans un voyage au Maroc, qui va le conduire de Tanger à Meknès, d'Oran à Alger, puis de Cadix à Séville. Il va croquer 7 carnets, qu'on peut retrouver en partie dans l'exposition actuellement au Louvre, d'où naîtra aussi cette peinture que vous avez choisie pour la couverture de votre monographie. J'ai peur d'écorcher le nom du sultan, Moulay
Abdelrahman,
hein, tout simplement. Et on retrouve aussi dans l'exposition son célèbre femme d'Alger dans leur appartement. Il y a un imaginaire et des représentations de l'Orient sous le pinceau de Eugène Delacroix qui sont aussi ou qui ont été questionnées dans une autre exposition qui vient de s'achever au musée Delacroix par Françoise Vergès, spécialiste des questions coloniales. Elle était commissaire de l'exposition avec l'ancien footballeur Lilian Thuram. Écoutez ce qu'il en disait sur RFI.
Lorsque vous regardez ce tableau, il y a une grande liberté dans la façon d'être. Ces femmes sont en train de fumer, là, par exemple. On voit les bras dénudés, par exemple, un pantalon qui arrive au-dessus des mollets. Et il y a une certaine élégance, alors qu'en Europe, à l'époque, on ne voit pas autant le corps féminin. Les femmes, les vêtements qu'elles portaient étaient des corsets. Et dans le regard aujourd'hui, on a tendance à penser que les femmes en Orient sont enfermées dans leur corps et que les femmes occidentales seraient totalement nues. Mais il y a peut-être, je dirais, un juste milieu. J'étais très surpris d'apprendre qu'il n'avait fait qu'un voyage au Maroc en 1832 et pourtant tout au long de sa vie, il va peindre des choses venues d'Orient.
Comme si c'était un expert.
Exact, c'est pour ça que je trouve que c'est extrêmement intéressant de questionner le regard et de dire aux enfants, faites bien attention. Par exemple, sur le fait qu'il peigne des lions alors qu'il n'y avait plus de lions au Maroc. Très souvent, ce qu'on pense de l'ailleurs, c'est une construction d'individus et ça finit par être, pour certains, une vérité.
On peut lui reprocher, Barthélémy Jobert, cette conception un peu fantasmée de l'Orient ?
Non, parce que c'est quelqu'un qui d'abord a connu la vérité du Maroc et de l'Algérie de son temps. Il suffit de lire les souvenirs d'un voyage dans le Maroc pour avoir un regard extrêmement sévère porté sur les débuts de la colonisation en Algérie qui montre que Delacroix était très respectueux de cette civilisation de l'Afrique du Nord dans laquelle il retrouvait, c'est un vrai paradoxe pour nous, l'Antiquité vivante, c'est-à-dire qu'il a retrouvé Rome au Maroc. C'est bien toute cette complexité à la fois du regard et de la culture de Delacroix qui fait que c'est un artiste fascinant et toujours à redécouvrir.
Barthélémy Jobert, on l'a souvent qualifié de tête ou de chef de file du romantisme, Eugène Delacroix. Pour terminer, si vous deviez lui coller une étiquette ou le rattacher à un mouvement esthétique de son époque, romantisme, naturalisme, réalisme, qu'est-ce qu'on garde ? Un peu d'étroit ?
Un peu d'étroit, puis je vais être très provocateur. En fait, c'est un classique.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Barthélémy Jobert. Delacroix, votre grande et belle monographie est rééditée aujourd'hui chez Gallimard. Et je vous rappelle que vous pouvez aller au musée du Louvre assister à cette première grande exposition depuis longtemps. Il n'y en avait pas eu des comme ça à Paris sur le peintre Eugène Delacroix.